Bonjour et bienvenue sur le podcast de Je bosse en grande distribution. Dans cette nouvelle mini-série, j'ai invité Yvan Riocru-Reiss, président de Formapassion, organisme de formation pour les pros de la grande distribution. Yvan est un grand spécialiste des rayons métiers et connaît parfaitement les enjeux actuels. Dans cette mini-série, on aborde le contexte actuel et on donne des clés pour réenchanter les ventes et l'expérience client. Très bonne écoute à tous. On poursuit notre série consacrée aux métiers, aux rayons métiers en grande distribution. On va parler maintenant du rayon boulangerie et pâtisserie. C'est un rayon qui a beaucoup souffert avec la hausse des matières premières, mais c'est un rayon ô combien important, le rayon produit d'appel par excellence, le rayon boulangerie. Quel est ton regard, toi, sur l'évolution de ce rayon? Il se passe beaucoup de choses. On est plus sur la consommation de la baguette traditionnelle. Aujourd'hui, on va consommer, effectivement, le consommateur va consommer différemment aujourd'hui. Quel est ton regard, toi, sur l'évolution de ce rayon depuis quelques années?
Alors, on a clairement deux univers, la boulangerie, la pâtisserie.
La pâtisserie, bien sûr.
De l'autre côté, bien sûr, qui sont toujours intéressantes, mais tu as raison de le dire, c'est la boulangerie qui est notre moteur du quotidien, le fameux achat de pain. On va rebondir ici sur des notions qui sont très, très, très évidentes en la matière. Alors, ce marché, il a complètement été bousculé, notamment, tout à l'heure, nous évoquions des marchés bousculés primeurs par des multifrais. Là, clairement, si on évoque Marie Blachère, par exemple, ou des terminaux de cuisson, il y a vraiment un marché qui est un peu sensible. Les tickets d'entrée, c'est quoi? Ben, c'est de réfléchir justement. Et aujourd'hui, j'ai un sourire en coin quand je parle parce que de tout ce que je peux réaliser avec mes équipes en termes d'audit, d'accompagnement en magasin, l'une des problématiques qu'on a en ce moment, c'est d'obtenir des baguettes blanches. Et moi, il y a rien de plus ironique en ce moment que ça, puisque je dois m'expliquer avec des managers de rayon sur l'intérêt d'avoir de la baguette blanche pour répondre aux consommateurs, alors que, comme tu le disais tout à l'heure, nous sommes enfermés dans des logiques économiques graves et où mettre un four en route aujourd'hui, c'est problématique et on devrait naturellement se retrouver avec des baguettes blanches. Donc déjà, dans les filtres qui sont à mettre en place, c'est distinguer que, comme tu disais très bien, les baguettes aujourd'hui sont des ventes de baguettes plutôt traditionnelles et que la cuisson a son importance. Très peu d'enseignes arrivent aujourd'hui à maîtriser ce process. On a eu différentes apparitions, j'ai vu beaucoup de concepts avec des souhaits qui étaient rédigés dans les concepts internes des enseignes, mais dans la réalité, c'est compliqué. La boulangerie aujourd'hui, et dans une moindre mesure la pâtisserie, le leitmotiv, c'est s'adapter. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on a des temps de consommation dans la journée et que le rayon devrait évoluer avec ces temps de consommation. Notamment l'offre du petit déjeuner, l'offre potentiellement de l'apéritif vers 11h snacking, l'offre déjeuner et l'offre goûter. Force est de constater que sur le terrain, le rayon reste relativement stagnant dans sa présentation. Et notamment, ce qu'on a vu apparaître qui fonctionne finalement assez mal, ce sont les tables de masse, les expositions hors rayon, qui sont devant le rayon et qui devraient être des thématiques mouvantes tout au long de la journée, avec la présentation de ma viennoiserie de qualité sur la table pour le petit déjeuner, qui va se transformer en produit de production salée, type fougas, pourquoi pas, autour de 11h, pour redevenir autre chose par la suite de la journée. Donc, dans les grandes lignes sur le rayon boulangerie-pâtisserie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même beaucoup de consommateurs qui se tournent vers des pains spéciaux. Et donc, ne pas hésiter à mettre du service. Donc, les pains spéciaux, c'est premier service déjà que je trouve assez détérioré. Si on reprend les basiques du commerce avec les fameux 3P, le plein, on pourra en parler avec les cuissons tout au long de la journée. N'oublions pas ce qui a été évoqué par tes soins, le coût, matière première, oui, mais le coût énergie surtout. Beaucoup de magasins ne peuvent plus cuire ou ne veulent plus cuire tout au long de la journée. C'est trop coûteux d'avoir des fours allumés en cours de journée. Et donc, je travaille sur les heures creuses, plutôt en heures de nuit. Donc, j'ai une détérioration de la qualité de mon pain par des cuissons qui se font de façon uniforme et en une seule fois. Ça a réfléchi. Sur les 3P, celui qui me pose le plus de problèmes en ce moment, c'est le P de prix, l'affichage du prix. J'entends bien l'affichage du prix. Oui. Beaucoup d'enseignes se sont mis à mettre le prix sur le pain. C'est-à-dire, j'ai, mettons, un pain bio, une boule de pain, et j'ai une étiquette sur le pain. Mais j'ai pas d'étiquette en rayon. Donc, j'ai un balisage déjà qui est un vrai frein à la vente. Notre client doit retourner le rayon pour arriver à retrouver un prix. C'est vraiment évident. La sensibilité des lots aussi. Alors, liée à la baguette offerte de par certains justement qu'on évoquait tout à l'heure, de pas hésiter à partir dans ce système comme ça parce que très très porteur. Trois baguettes achetées, une gratuite, c'est quelque chose, une offerte, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Après, dans le service, nous avons vu apparaître la découpe de pain. Donc, et assez régulièrement, la machine en libre service était évoquée par tes soins tout à l'heure sur d'autres sujets à l'enseigne Lidl.
Oui.
C'est intéressant de voir qu'un ancien hard discounter aujourd'hui propose dans son terminal de cuisson un service de découpe de pain que le consommateur gère par lui-même. Faudrait ici sortir un peu de l'alimentaire pour évoquer le libre toucher, le libre essayer et le fait que on envoie un signal de confiance aussi. Je vous ai mis à disposition du matériel, il est sécurisé. Allez-y, je vous en prie, servez-vous en la matière. La présence, la possibilité de découper ces pains spéciaux, c'est une garantie de plus de 20% sur les ventes systématiques. Parce que c'est relativement pénible, notamment je pense à des pains sportifs ou à des pains très denses en termes de contenu. La machine va faire le travail pour nous, donc c'est quelque chose qui peut être vraiment vraiment intéressant dans ces sujets-là. L'offre est vraiment travaillée aussi avec des pains spécifiques. Hein, regardons les succès de l'enseigne que j'évoquais tout à l'heure, les pains au maïs par exemple, le pain sportif que je viens d'évoquer. Il y a un souhait de différenciation en la matière. En parallèle, il y a la baguette quotidienne, bien évidemment, doit d'être là. On a tous assisté auprès de nos partenaires distributeurs à la guerre des prix sur la baguette. Elle a du sens. Et donc, on doit aussi y répondre. Maintenant, attention aux cuissons, effectivement. Quand on est sur une baguette d'entrée de gamme, cuisson du matin, à 14h, c'est un produit qui va quand même avoir des vrais soucis en termes de conservation. Là, c'est la famille vraiment pain en soi et qui est un vrai moteur pour nous. Pensons aux transformations, tout ce qui est pain déjeunette, pain à burger, qui sont des très très fortes croissantes aussi. Hein, le fait maison, je prépare mon burger, j'ai découvert un certain talent culinaire durant les temps de confinement et j'ai conservé un petit temps de préparation à la maison. Même si ça reste un assemblage basique, ça rassure le client, j'ai fabriqué moi-même mon burger, j'ai fait un sandwich de qualité. Et attention, avec le télétravail, ça a son importance aussi. Et le fait d'avoir une vraie tendance forte en ce moment, d'amener son repas sur le lieu de travail. Et donc, j'ai préparé ma gamelle pour le midi et j'ai ma lunchbox avec moi. Et donc, il me faut des produits qui soient transportables et sur lesquels je puisse prendre plaisir à les déguster. Ça a son importance.
En parallèle, on a les collègues de labo, les pâtissiers. là, on est sur des produits, beaucoup d'impulsion, d'achat d'impulsion.
Oui.
Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui un bon rayon pâtisserie? Est-ce qu'il faut arrêter de décongeler? Est-ce qu'il faut faire plus du maison? Il faut aussi trouver les équipes pour le faire.
Oui.
C'est pas un rayon facile, mais c'est un rayon qui est aussi une belle vitrine pour le point de vente.
Bien sûr. Voilà. Ici, on a une obsession sur la casse, bien évidemment, puisqu'on a quand même un coût matière qui est engagé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux temps de gestion. En fait, on a des gâteaux à s'offrir et des gâteaux à offrir. Donc, il faut qu'on distingue quand même son rythme de semaine aussi, en se disant que sur la fin de semaine, j'ai une prise de risque avec effectivement des 6, des 8, des 12 parts qui sont des parties importantes pour nous. L'une des premières règles, c'est de suivre les saisons, donc de toujours coller à une saisonnalité, tout en ayant effectivement une petite partie en contre-saison. Je remarque encore une fois des implantations relativement figées avec des vraies difficultés à sortir des entremets pour aller chercher des tartes aux fruits et puis reprendre certains basiques. L'une des familles qui monte en puissance sur laquelle on peut vraiment se distinguer, c'est tout ce qui est tarterie, ne l'oublions pas, qui est une petite partie à part. On a des très belles tartes pour des rapports qualité-prix très avantageux. J'inclurai dans cette partie-là les parts de flan, qui sont des fortes croissances en ce moment, okay. Notamment à ceux qui vont sur des flans coco, des flans chocolatés, vraiment avec des parties très, très démonstratives. Pour répondre à ta question, la partie « est-ce qu'on fait du surgelé, du préparé sur place ?» bien évidemment, les deux, mon capitaine, parce que l'idée, c'est d'aller chercher la qualité. Donc, si cette qualité, je ne suis pas en capacité de la produire par manque de main-d'œuvre ou par difficulté de compte d'exploitation qui n'autorise pas à aller chercher des préparations sur place, mieux vaut avoir du surgelé de qualité, c'est-à-dire avant tout des pièces qui soient bien montées et auront aujourd'hui en décongélation une tenue. Nous savons qu'avec les systèmes de cryogénisation qui existent aujourd'hui dans nos surgelés, nous le voyons avec des leaders comme Thierry et Picard, nous avons des pièces extraordinaires en termes de rendu et en termes gustatifs qui sont au rendez-vous. Donc, c'est une vraie réflexion à avoir. À titre d'exemple, je préfère que l'on sorte un surgelé de qualité sur de la grosse pièce en entremets et puis qu'on ait fait un effort de fabrication sur des tartes en parallèle, que le client puisse comprendre comment l'offre est découpée et j'ai des tartes aux pommes de qualité fabriquées maison sur place qui pourront être intéressantes en tout cas. C'est ça l'idée. Bien évidemment, la difficulté en pâtisserie, elle est double voire triple, mais nous allons rejoindre très rapidement ce qui était évoqué dans un épisode précédent sur la boucherie, c'est que quand on a un pâtissier, une pâtissière, c'est quelqu'un qui a envie de faire le geste complet et donc d'offrir aussi quelque chose qui soit complet. On assiste beaucoup aujourd'hui à des productions qui sont faites à un moment de la semaine en une fois, qui sont ensuite surgelées pour répondre à du surgelé maison. Là-dessus, la communication est très importante. J'ai certaines enseignes et certains points de vente qui font même du chocolat maison. On a vu certains concepts avec des stands pâtisserie qui sont, je trouve, des vraies réponses aussi, notamment permettant d'aller exposer des gros piécés ou des petits piécés. Donc, j'ai de la petite pièce artisanale à la vente avec une petite religieuse très intéressante. Mais à côté, je vends une tarte au sucre géante vendue à la part. Et donc, ça amène un peu de spectacle, de la différenciation sur un rayon qui a plutôt une habitude de se retrouver en libre-service. Là, il y a une vraie combinaison à pouvoir jouer qui est intéressante avec des facteurs de succès très, très forts. Encore une fois, la recette, la signature maison, nous l'observons chez certaines enseignes, nous demandent de retravailler ça. Ça a son importance, bien évidemment.
Et là aussi, il faut des hommes. Oui. C'est plus facile peut-être de recruter un pâtissier aujourd'hui qu'un boucher, mais ça reste quand même une main-d'œuvre assez difficile à trouver.
Oui, alors tu as complètement raison, c'est plus facile. Et en même temps, il y a une belle signature de la grande distribution sur les laboratoires de fabrication. J'ai quelques villes où le premier artisan de la ville est un grand distributeur par ses engagements en termes d'achat de produits de matières premières et qui ont des vraies signatures locales. Ça devient des références en la matière. On voit aussi que ce soit sur la pâtisserie, que ce soit sur la boulangerie, que ce sont des enseignes ou des points de vente qui vont chercher des spécificités avec des farines très très spécifiques qui sont parfois même proposées à la vente aux clients. Voilà, là encore une fois, tout ce qui est atelier, tout ce qui est partage avec le client, dégustation de viennoiserie, voilà, on a mis en place des écoutes clients le samedi. Des consommateurs qui viennent en magasin le samedi, nous les interpellons pour leur demander leur disponibilité potentielle sur le samedi de la semaine suivante, pour les faire participer à des ateliers de fabrication, des dégustations. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment. Et puis, c'est des rayons qui doivent aussi répondre à la crise actuelle. On le voit sur la viennoiserie, les enseignes ont réagi avec notamment, par exemple, des croissants sur base de corps gras végétal, et puis un croissant au beurre à côté, puis un croissant labellisé. Trois offres, trois segmentations, trois niveaux de prix pour le produit croissant. Et ça, c'est intéressant de pouvoir répondre à tous les besoins en permanence. Et nous l'avons vu pour les fêtes aussi avec ce qu'on appelle, nous, les modèles d'exposition, c'est-à-dire tout ce qui a été mis en place sur les 15 premiers jours de décembre, et où on avait des mini-bûches, par exemple, pour que le client puisse déguster avant d'acheter. Ça, c'est des éléments qui sont importants pour nous.
Merci beaucoup, Yvan, pour ces différents éclairages, cette mini-série, je pense, qui va intéresser beaucoup de professionnels en magasin. Merci aussi à Mickaël, à Philippe Rovira, que je remercie pour cette mise en relation, avec qui j'ai enregistré plusieurs épisodes aussi de podcast. Franchement, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te contacter?
Déjà, avec plaisir, Jonathan. Petit clin d'œil à Philippe également, bien évidemment. Nous contacter, c'est assez facile sur nos sites internet Format Passion et PB Conseil pour les différentes mises en relation avec grand plaisir. Puis enchanté de pouvoir partager tout ça. Il y a un point d'importance majeur pour nous que d'échanger dans ces métiers-là.
Merci beaucoup, Yvan.
Merci.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution.
sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment, un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou Ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt !